Baruch Spinoza, Traité théologico-politique. Chapitre 9. Autres recherches sur les mêmes livres. Si en particulier Esdras y mit la dernière main, et ensuite si les notes marginales qui se trouvent dans les manuscrits hébreux sont des leçons différentes. Esdras, l'auteur de ces livres, n'y a pas mis la dernière main. Que pour la parfaite intelligence de ces livres, l'enquête entreprise dans le précédent chapitre sur leur véritable auteur doive être du plus grand secours, c'est ce qui ressort aisément des passages mêmes que nous avons cités pour confirmer notre manière de voir et qui, sans elle, devrait paraître à tous très obscur. Il est cependant dans ces livres d'autres sujets de remarque auxquels la superstition commune ne permet pas aux vulgaires de prendre garde. Le principal est qu'Esdras, je le tiens pour le véritable auteur aussi longtemps qu'on ne m'en aura pas fait connaître un autre avec plus de certitude, n'a pas mis la dernière main au récit contenu dans ces livres et n'a fait autre chose que réunir des récits pris dans divers écrivains que parfois il s'est borné à les copier et les a ainsi transmis à la postérité sans les avoir examinés ni mis en ordre. Quelles causes l'ont empêché d'accomplir ce travail en y mettant tous ses soins? C'est ce que je ne peux même conjecturer, à moins que ce ne soit une mort prématurée. Mais le fait lui-même, malgré la perte de ce qu'avaient écrit les anciens historiens, est cependant établi avec la plus grande évidence par le très petit nombre de fragments dont nous disposons. Ainsi, l'histoire d'Ézéchias à partir du verset 17, chapitre 18 du livre 2 des Rois, est une copie de la relation d'Isaïe telle qu'elle était transcrite dans les chroniques des rois de Juda. Nous lisons en effet dans le livre d'Isaïe qui était contenu dans les chroniques des rois de Juda, voir Paralipomène, livre 2, chapitre 32, verset pénultième, toute cette histoire dans les mêmes termes que dans le livre des rois, à quelques très rares exceptions près. Et de ces exceptions, on ne peut rien conclure, sinon que des leçons différentes du récit d'Isaïe ont pu se rencontrer, à moins que l'on aime mieux rêver des mystères à ce sujet. En second lieu, le chapitre dernier de ce même livre des rois est contenu dans le dernier chapitre de Jérémie, versets 39 et 40. En outre, nous trouvons le chapitre 7 du livre 2 de Samuel reproduit dans le livre 1 des Paralipomènes, chapitre 17. Toutefois, les mots varient en divers passages de façon assez surprenante pour qu'on reconnaisse que ces deux chapitres ont été pris dans deux exemplaires différents de l'histoire de Nathan. Enfin, la généalogie des rois d'Idumée qui se trouve dans la Genèse, chapitre 31 à partir du verset 31, est exposée dans les mêmes termes dans le livre 1 des Paralipomènes, chapitre 1, alors que cependant l'auteur de ce dernier livre a pris, cela est certain, son récit dans des historiens autres que ces 12 livres attribués par nous à Esdras. Il n'est donc pas douteux que si nous avions les historiens, la chose ne fût aisée à constater. Mais puisqu'ils nous font défaut, il ne nous reste qu'à examiner les récits eux-mêmes, leur ordre et leur enchaînement, la façon dont ils se répètent avec des variantes et enfin leur divergence dans le compute des années. Cela nous permettra de juger du reste. Prenons donc ces récits, ou du moins les principaux, et pesons-les. Et d'abord cette histoire de Juda et de Tamar que le narrateur commence ainsi de relater dans la Genèse, chapitre 28. Il arriva dans ces temps que Juda s'éloigna de ses frères. Cette indication de temps doit évidemment se rapporter à un autre temps dont il vient de parler. Mais précisément, elle ne peut du tout s'appliquer au temps dont il est question immédiatement avant dans la Genèse. Depuis la première arrivée de Joseph en Égypte, en effet, jusqu'au départ du patriarche Jacob avec toute sa famille pour ce même pays, nous ne pouvons compter plus de 22 ans. Joseph avait 17 ans quand il a été vendu par ses frères et 30 quand Pharaon le fit sortir de prison. si nous ajoutons à ces 13 années 7 ans de fertilité et 2 de famine, nous arrivons à 22 ans en tout. Personne ne pourra concevoir cependant que tant de choses soient arrivées dans ce laps de temps. Que Judas ait eu successivement 3 enfants de l'unique femme qu'il épousa, que l'aîné de ces 3, quand il fut d'âge, se soit marié avec Tamar, qu'après sa mort Tamar se soit remariée avec le second fils, lequel mourut aussi, qu'après ces 2 mariages et ces 2 morts, Judas lui-même ait eu commerce avec sa bru Tamar, sans savoir qui elle était, que 2 enfants jumeaux à la vérité lui soient nés, dont l'un, toujours dans ce même laps de temps, est lui-même devenu père. Puis donc que tous ces événements ne peuvent être rapportés au temps indiqué dans la Genèse, il est nécessaire de les rapporter à un autre temps dont il venait d'être question dans un autre livre. Par suite, Esdras a simplement transcrit cette histoire et l'a insérée dans son récit sans examen. Ce n'est pas seulement ce chapitre d'ailleurs, mais toute l'histoire de Joseph et de Jacob que l'on doit reconnaître qui est extraite et transcrite de divers historiens, tant nous voyons peu d'accord entre ces différentes parties. Au chapitre 47, la Genèse raconte que Jacob, quand il vint sous la conduite de Joseph saluer Pharaon pour la première fois, était âgé de 130 ans. Retranchons-en 22 qu'il passa dans le chagrin de la perte de Joseph, puis 17 qu'avait Joseph quand il fut vendu, et enfin 7 pendant lesquels Jacob servit pour Rachel. Nous trouvons qu'il était d'un âge très avancé, savoir 84 ans quand il prit Lia pour femme. En revanche, Dina avait à peine 7 ans quand il lui fut fait violence par Sichem, Siméon et Lévi à peine 12 et 11 quand ils mirent à sac toute cette cité dont parle la Genèse et firent périr tous ses habitants par le glaive. Point n'est besoin ici de passer tout le contenu du Pentateuque en revue. Pour peu qu'on ait égard à la façon dont, dans ces 5 livres, les préceptes et les récits sont mêlés et sans ordre à la confusion des temps, à la répétition fréquente des mêmes histoires avec des changements graves parfois, on connaîtra facilement qu'on se trouve en présence d'une collection de textes amassés pour être ensuite plus aisément examinés et mis en ordre. Cela n'est pas vrai seulement de ces 5 livres, mais aussi des autres récits contenus dans les 7 autres jusqu'à la dévastation de la ville et qui furent rassemblés de la même manière. Qui ne voit qu'au chapitre 2 des Juges, à partir du verset 6, on se trouve en présence d'un nouvel historien, qui avait aussi écrit les hauts faits de Josué, dont les paroles sont simplement transcrites. Après en effet que le premier historien a raconté dans le dernier chapitre de Josué la mort de Josué et son ensevelissement, et dans le premier des Juges promis de raconter les événements arrivés après cette mort, pour quelle raison, s'il avait voulu suivre le fil de son histoire, aurait-il pu rattacher à ce qu'il vient de dire le récit qu'il commence sur Josué lui-même? De même, encore les chapitres 17, 18, etc. du premier livre de Samuel sont empruntés à un historien autre que celui dont le récit est reproduit dans les chapitres précédents, et qui donne des premières fréquentations de David à la cour de Saül une explication tout autre que celle du chapitre 16. Il ne croit pas en effet que Saül ait appelé David sur le conseil de ses serviteurs, comme il est relaté au chapitre 16, mais que, le père de David l'ayant par chance envoyé au camp auprès de ses frères, il se fit connaître de Saül par sa victoire sur le Philistin Goliath et fut retenu à la cour de ce roi. Je soupçonne qu'il en est de même du chapitre 26 de ce même livre, c'est-à-dire que l'historien me semble raconter la même histoire que dans le chapitre 24 d'après une autre version. Laissons cependant ce sujet. Je passe à l'examen du compute des années. Au chapitre 6 du livre premier des Rois, il est dit que Salomon construisit le temple 480 ans après la sortie d'Égypte, tandis que, d'après les récits eux-mêmes, nous trouvons un nombre bien plus grand. En effet, Moïse gouverna le peuple dans le désert 40 années. Suivant l'opinion de Joseph et d'autres historiens, nous attribuons à Josué qui vécut 110 ans un gouvernement de 26 années. Cushan-Rishathaïm soumit le peuple 8 années. Othniel, fils de Kénaz, fut juge 40 années. Églon, roi de Moab, régna sur le peuple 18 années. Ahod et Samgar furent juges 30 années. Yavin, roi de Canaan, tint de nouveau le peuple soumis pendant 20 années. Le peuple ensuite fut en repos 40 années. Ensuite il fut soumis aux Madianites pendant 7 années. Il vécut en liberté sous Gédéon 40 années. Sous la souveraineté d'Avimeler 3 années. Tola, fils de Foi, fut juge 23 années. Yaïr 22 années. Le peuple fut de nouveau soumis aux Philistins et aux Ammonites pendant 18 années. Jephté fut juge 6 années. Ifshan le Bethléémite 7 années. Ayalon le Zabulonite 10 années. Abdon le Pharatonite 8 années. Nouvelle soumission aux Philistins d'une durée de 40 années. Samson fut juge 20 années. Raïli 40 années. Nouvelle soumission aux Philistins avant la libération du peuple par Samuel 20 années. David régna 40 années. Salomon avant la construction du temple 4 années. Soit un total des années écoulées de 580. Encore faut-il ajouter les années pendant lesquelles la République des Hébreux prospéra après la mort de Josué jusqu'à ce qu'elle eût été vaincue par Cushan-Rishathaïm, et je crois que le nombre en fut grand. Je ne puis me persuader en effet qu'aussitôt après la mort de Josué, tous ceux qui avaient vu ces prodiges périr en un moment, ou que leurs successeurs renoncèrent aux lois en une fois et tout d'un coup, et de la plus haute vertu tombèrent dans la plus extrême impuissance et la pire négligence. Ni enfin que Cushan-Rishathaïm n'eut qu'à paraître pour les soumettre. Chacune des étapes de cette décadence requiert presque une vie d'homme, de sorte que, sans aucun doute, l'Écriture résume dans le chapitre 2, versets 7, 8, 10 du livre des Juges, l'histoire de beaucoup d'années sur lesquelles elle ne dit rien. Il faut ajouter en outre les années pendant lesquelles Samuel fut juge et dont le nombre n'est pas donné par l'Écriture. Enfin, les années de règne de Saül que j'ai omises dans le compte établi ci-dessus, parce que son histoire n'établit pas de façon suffisante combien d'années il a régné. On nous dit au chapitre 13, verset 1 du premier livre de Samuel qu'il a régné 2 ans, mais ce texte est tronqué, et de son histoire même nous conclurions un nombre supérieur. Que ce texte soit tronqué, c'est ce dont ne peut douter quiconque à la connaissance la plus élémentaire de l'hébreu. Il commence ainsi. Saül avait 1 an quand il devint roi, et il régna 2 ans sur Israël. Qui ne voit, demandai-je, que ce texte omet le nombre des années qu'avait Saül quand il prit le pouvoir royal. L'histoire elle-même de Saül nous conduit à admettre un nombre plus grand. Personne, à ce que je crois, n'en doutera. En effet, au chapitre 27, verset 7 de ce même livre, on trouve que David resta 1 an et 4 mois chez les Philistins, où il avait cherché refuge à cause de Saül. D'après ce compte, tout le reste aurait dû se passer dans l'espace de 8 mois, ce que personne, je pense, n'admettra. Joseph, à la fin du 3e livre des Antiquités, corrige ainsi le texte. Saül régna donc du vivant de Samuel 18 ans, après sa mort 2 autres années. Au reste, toute cette histoire du chapitre 13 ne s'accorde en aucune manière avec ce qui précède. À la fin du chapitre 8, on nous raconte que les Philistins furent si complètement vaincus par les Hébreux que du vivant de Samuel ils n'osèrent plus franchir les frontières d'Israël. Et dans ce chapitre 13 que les Hébreux, du vivant de Samuel, furent envahis par les Philistins et réduits par eux à une telle misère et une si grande pauvreté qu'ils se trouvèrent sans armes et sans aucun moyen d'en fabriquer. Ce serait en vérité une tâche assez pénible que d'accorder entre elles toutes ces histoires contenues dans le premier livre de Samuel de façon qu'elles parussent écrites et mises en ordre par un seul historien. Mais je reviens à mon propos. Il faut donc au compte établi ci-dessus ajouter les années du règne de Saül. Enfin, je n'ai pas non plus compté les années que dura l'anarchie des Hébreux, parce qu'elles ne sont pas indiquées nettement par l'Écriture elle-même. Je ne sais pas, veux-je dire, combien de temps prirent les événements racontés depuis le chapitre 17 jusqu'à la fin du livre des Juges. De tout cela, il suit donc clairement qu'on ne peut pas établir un compte exact des années par les récits eux-mêmes et que leur étude conduit non à en admettre un comme bien établi, mais à faire diverses suppositions. Il faut donc avouer que ces récits sont une collection d'histoires écrites par divers auteurs et réunies avant d'avoir été mises en ordre et examinées. La divergence ne paraît pas avoir été moindre en ce qui touche le compte des années entre les livres des chroniques des rois de Juda et ceux des chroniques des rois d'Israël. Dans les chroniques des rois d'Israël, il y avait que Joram, fils d'Akab, commença de régner la deuxième année du règne de Joram, fils de Josaphat, voir roi livre 2, chapitre 1, verset 17, tandis que dans les chroniques des rois de Juda, il y avait que Joram, fils de Josaphat, commença de régner la cinquième année du règne de Joram, fils d'Akab, voir chapitre 8, verset 16 de ce même livre. Et si l'on voulait comparer les récits des livres des paralipomènes avec ceux des livres des rois, on trouverait beaucoup de divergences semblables, que point n'est besoin de relever ici. Encore moins les commentaires des auteurs qui ont entrepris d'accorder entre eux ces récits. Les rabbins, en effet, délirent purement et simplement. Quant aux commentateurs que j'ai lus, ils rêvent, forgent des explications et finissent par corrompre la langue elle-même. Quand, par exemple, le livre 2 des Paralipomènes dit « Ocosias était âgé de 42 ans quand il régna », quelques-uns imaginent que ces années partent du règne d'Amri, non de la naissance d'Ocosias. Si l'on pouvait démontrer que telle fut l'intention de l'auteur du livre des Paralipomènes, je n'hésiterais pas à dire qu'il ne savait pas parler. De la même façon, il forge plusieurs autres explications qui m'obligeraient à dire, si elles étaient vraies, que les anciens Hébreux ont ignoré complètement et leur propre langue et toute espèce d'ordre dans le récit, à reconnaître qu'il n'y a ni raisonnement possible ni règle à suivre dans l'interprétation de l'Écriture et qu'il est loisible de tout forger à sa guise. Si cependant, l'on pense que je parle ici d'une façon trop générale et sans fondement suffisant, je demande qu'on veuille bien se donner la peine de nous montrer un ordre certain dans ces récits, un ordre que des historiens dans leurs travaux de chronologie puissent imiter sans tomber dans une faute grave. Et pendant qu'on cherchera à interpréter et à concilier ces récits, que l'on conserve les phrases et les manières de dire, de disposer et de lier le discours, et qu'on les explique de telle sorte que nous puissions, en nous conformant à cette explication, les imiter dans nos écrits. Devant celui qui accomplira pareille tâche, je m'incline d'avance, et je suis prêt à voir en lui un grand oracle. J'avoue en effet qu'en dépit d'une longue recherche, je n'ai jamais rien pu trouver de tel. J'ajoute même que je n'écris rien ici que je n'ai longuement et longtemps médité. Et, bien qu'imbu dès mon enfance des opinions communes sur l'Écriture, il m'a été impossible de ne pas conclure comme je l'ai fait. Il n'y a pas de raison cependant pour arrêter longtemps le lecteur en cet endroit et lui proposer comme un défi une tâche impossible. J'ai dû seulement dire ce que serait cette tâche pour expliquer plus clairement ma pensée. Je passe maintenant aux autres observations que j'ai à faire sur les fortunes de ces livres. Des fautes se sont glissées dans les textes lors de leur transmission. Il faut le noter, en effet, après nous être expliqués sur leur provenance, ces livres n'ont pas été conservés si diligemment par la postérité que nulle faute ne s'y soit glissée. Les scribes anciens y ont remarqué plusieurs leçons douteuses et, en outre, quelques passages tronqués, sans cependant les apercevoir tous. Ces fautes sont-elles maintenant d'une importance à beaucoup arrêter le lecteur ? Je ne discuterai pas ce point. Je crois en effet qu'elles sont de peu de gravité, du moins pour le lecteur libre de son jugement. Ce que je puis affirmer avec assurance, c'est que je n'ai remarqué aucune faute, aucune différence de leçon dans les textes relatifs aux enseignements moraux, qui les puissent rendre obscurs ou douteux. La plupart cependant des interprètes n'accordent pas qu'aucune déformation du texte ait pu se produire même dans les autres parties. Ils admettent que, par une providence singulière, Dieu a préservé la Bible entière de toute corruption. Pour eux, les leçons différentes sont les signes de très profonds mystères. Ils discutent au sujet des astérisques, au nombre de 28, qu'on trouve au milieu d'un paragraphe. Les dessins mêmes des lettres leur semblent contenir de grands secrets. Est-ce là l'effet de la déraison et d'une piété de vieilles dévotes ? N'est-ce pas plutôt par arrogance et malice qu'ils ont dit cela, pour qu'on les crût les seuls dépositaires des secrets de Dieu ? Je ne sais. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais rien trouvé qui sentît le mystère dans leurs livres. Je n'y ai vu que de laborieuses puérilités. J'ai lu aussi quelques kabbalistes et pris connaissance de leur billevesée, et j'ai été confondu de leur démence. Que d'ailleurs, comme nous l'avons dit, des fautes se soient glissées dans les livres, nul, je crois, pour peu qu'il juge sainement, n'en doutera s'il lit le texte sur Saül, que nous avons déjà cité d'après le livre 1 de Samuel, chapitre 13, verset 1, et aussi le verset 2, chapitre 6 de Samuel 2, et David se leva et alla avec tout le peuple de Juda qui était auprès de lui pour emporter de là l'arche de Dieu. Il n'est personne qui puisse ne pas voir que le lieu où il s'est rendu pour en retirer l'arche, c'est-à-dire Kariath-Yarim, n'est pas désigné. Nous ne pouvons nier non plus que le verset 37, chapitre 18 de Samuel 2, ne soit altéré et tronqué, le texte étant « Et Absalom s'enfuit et alla auprès de Tolmaï, fils d'Amioud et roi de Geshur, et il pleura son fils pendant toutes les nuits de ses jours, et Absalom s'enfuit et alla à Geshur, et y demeura 3 années. » Et je sais que j'ai noté autrefois d'autres passages de même sorte qui à présent ne me reviennent pas. Pour les notes marginales qu'on trouve çà et là dans les livres hébreux, que ce soit des leçons douteuses, on ne peut hésiter à le croire si l'on considère que la plupart ont pour origine la grande ressemblance des lettres en hébreu, en particulier du kaf et du bet, du yod et du vav, du dalet et du rish, etc. Par exemple, il est écrit « Au temps où tu entendras » et en marge par le changement d'une lettre « Quand tu entendras » Au chapitre 2 du livre des Juges, verset 22, le texte est « Et quand leurs pères et leurs frères sont venus auprès de nous en multitude, c'est-à-dire souvent, etc., et en marge avec un changement d'une lettre, il y a « pour contester » au lieu de « en multitude ». De même, un très grand nombre de leçons douteuses sont venues de l'usage des lettres qu'on nomme « lettres de pause », que le plus souvent l'on ne prononce presque pas, et que l'on confond l'une avec l'autre. Par exemple, dans le Lévitique, chapitre 25, verset 30, le texte est « Et sera possédée durablement la maison qui est dans une cité à laquelle il n'est pas de mur, et en marge il y a « à laquelle est un mur », etc. Bien que ces observations soient assez claires par elles-mêmes, il me paraît bon de répondre aux arguments d'un certain nombre de pharisiens tendant à prouver que ces notes marginales furent ajoutées, ou par les auteurs mêmes des livres sacrés ou sur leurs indications, pour signifier certaines choses mystérieuses. Le premier de ces arguments, qui me touche peu, est tiré de l'usage suivi dans la lecture de la Bible. Si, disent-ils, ces notes ont été mises en marge à cause de la diversité des leçons entre lesquelles la postérité n'a pu choisir, pourquoi l'usage s'est-il établi de garder toujours le sens marginal? Pourquoi a-t-on noté en marge le sens qu'on voulait retenir? N'aurait-on pas dû au contraire écrire le texte même comme on voulait qu'il fût lu, au lieu de noter en marge le vrai sens et la leçon jugée bonne? Le deuxième argument, qui semble avoir quelque apparence de sérieux, est tiré de la nature même des choses. Des fautes de transcription se glissent, disent-ils dans les manuscrits, par chance et non parce qu'on fait exprès. Et puisqu'il s'agit de fautes non volontaires, elles doivent être variées. Or, dans les cinq livres, le mot hébreu qui signifie « jeune fille » est toujours, sauf dans un seul passage, écrit sans la lettre « e », contrairement à la règle de la grammaire. Tandis qu'en marge, il est correctement écrit suivant la règle générale. Cela peut-il être venu de ce que la main s'est trompée en copiant? Par quelle fatalité a-t-il pu arriver que la plume du scribe alla trop vite invariablement toutes les fois que se rencontrait ce mot? On aurait d'ailleurs pu par la suite, aisément et sans scrupule, suppléer la lettre manquante et corriger cette faute pour satisfaire la grammaire. Puis donc que ces leçons ne sont pas dues au hasard et qu'on n'a pas voulu corriger des fautes aussi manifestes, il faut admettre que les mots ont été écrits à dessein par les premiers auteurs, comme ils le sont dans les manuscrits, pour signifier quelque chose. Nous pouvons toutefois facilement répondre. Le premier argument se tire en effet de l'usage qui est en vigueur parmi les pharisiens, et je ne m'y arrête pas. Je ne sais jusqu'où la superstition a pu aller, et peut-être cet usage est-il venu de ce que l'on croyait l'une et l'autre leçon également bonne ou acceptable, et par suite, pour ne laisser perdre ni l'une ni l'autre, on voulut que l'une fût maintenue dans le texte écrit, tandis que l'autre serait d'usage à la lecture. Il craignait en effet de se prononcer dans une affaire aussi grave et de prendre la fausse leçon pour la vraie. Aussi ne voulurent-ils donner la préférence à aucune des deux, ce qu'ils auraient dû faire nécessairement s'ils avaient prescrit d'écrire et de lire d'une seule manière. D'autant que dans les exemplaires destinés au culte, il n'y avait pas de notes marginales. Ou peut-être l'usage est-il venu de ce qu'on voulait que certains mots, bien que transcrit correctement, fussent lus autrement qu'ils n'étaient écrits, c'est-à-dire suivant la leçon notée en marge. Ainsi s'établit l'usage universel de lire la Bible suivant les notes marginales. Quant au motif qu'eurent les scribes d'écrire en marge certains mots expressément destinés à être lus, je vais le faire connaître. Toutes les notes marginales ne sont pas des leçons douteuses. Il y en a aussi qui corrigent des façons de dire hors d'usage. J'entends les mots tombés en désuétude et ceux que les bonnes mœurs ne permettaient plus d'employer. Les auteurs anciens, en effet, qui n'avaient point de malice, nommaient les choses en propres termes sans les circonlocutions en usage dans les cours. Plus tard, quand régnèrent le luxe et le mauvais esprit, on commença de juger obscènes les choses que les anciens avaient dites sans obscénité. Point n'était besoin pour cette cause de changer l'écriture elle-même. Toutefois, par égard pour la faiblesse d'esprit de la foule, l'usage s'introduisit de substituer pour la lecture publique aux mots désignant le coït et les excréments des termes plus convenables, ceux-là même qui se trouvent en marge. Enfin, quelle qu'ait été la raison pour laquelle l'usage s'établit de lire et d'interpréter les écritures suivant les notes marginales, Du moins, cette raison n'est pas que l'interprétation vraie soit nécessairement celle qui suit ses notes. Outre que, en effet, les rabbins eux-mêmes s'écartent souvent du texte massorétique et avaient d'autres leçons jugées meilleures par eux, comme je le montrerai bientôt, il se trouve dans les marges un certain nombre de variantes qui semblent s'accorder moins bien que le texte avec l'usage de la langue. Par exemple, dans le livre 2 de Samuel, chapitre 14, verset 22, le texte est « Parce que le roi agit suivant l'avis de son serviteur », construction parfaitement régulière et en accord avec celle du verset 15 du même chapitre, en marge, il y a « de ton serviteur », ce qui ne s'accorde pas avec le verbe à la troisième personne. De même encore, au dernier verset du chapitre 16 de ce même livre, le texte est « comme quand on consulte la parole de Dieu », c'est-à-dire « il est consulté », en marge est ajouté le mot « quelqu'un » comme sujet du verbe. Cette addition ne paraît pas justifiée, l'usage commun de la langue étant d'employer des verbes impersonnels à la troisième personne du singulier à l'actif, comme le savent fort bien les grammairiens. Et l'on trouve ainsi beaucoup de notes qui ne peuvent en aucune manière être préférées à la leçon du texte. Pour ce qui est du deuxième argument des pharisiens, la réponse, après ce qu'on vient de voir, est également facile. Nous venons de dire en effet que les scribes, outre les leçons douteuses, ont noté aussi les mots tombés en désuétude. Il n'est pas douteux que dans la langue hébraïque, aussi bien que dans les autres, beaucoup de mots ne soient tombés en désuétude et n'aient vieilli. Il s'en trouvait dans la Bible qui ont tous été notés par les derniers scribes pour que la lecture publique se fît suivant l'usage de leur temps. Si le mot « nagar » est partout noté, c'est parce qu'il était anciennement commun aux deux genres et avait la même signification que le latin « juvenis ». De même encore, la capitale des Hébreux s'appelait anciennement Jérusalem, et non Jérusalem. Je dirais également du pronom signifiant « lui-même » et « elle-même » que l'habitude s'est introduite d'y remplacer le « vav » par un « yod », changement fréquent en hébreu, pour désigner le genre féminin, tandis que, plus anciennement, l'on avait accoutumé de distinguer le féminin de ce pronom du masculin que par des voyelles. De même, enfin, les formes irrégulières des verbes ont varié d'une époque à l'autre, et les anciens, par une recherche d'élégance propre à leur temps, employaient des lettres paragogiques. Et, aleph, mem, nun, tet, yod et vav. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je ne veux pas retarder ni ennuyer le lecteur. Me demande-t-on cependant d'où je le sais? Je réponds que je l'ai souvent observé dans les auteurs les plus anciens, c'est-à-dire dans la Bible, tandis que les plus récents n'ont pas voulu suivre cette coutume. Et c'est la seule raison pour laquelle dans les autres langues, même déjà mortes, on trouve des mots tombés en désuétude. Mais peut-être insistera-t-on, puisque j'admets que la plupart des notes marginales sont des leçons douteuses, pourquoi n'y a-t-il jamais pour un passage plus de deux leçons? Pourquoi pas trois quelquefois ou davantage? On m'objectera aussi que le texte est parfois manifestement contraire aux règles de la grammaire, tandis que la leçon donnée en marge est correcte, si bien qu'on ne peut guère croire que les scribes aient pu être arrêtés et hésités entre les deux leçons. Il est facile de répondre, et d'abord au premier argument, j'oppose que certaines leçons ont été écartées, d'autres choisies, sans que nos manuscrits nous les fassent toutes connaître. Dans le Talmud, en effet, on trouve des variantes négligées par les massorètes, et l'écart étant beaucoup de passages si manifestes entre les deux textes que ce correcteur superstitieux de la Bible de Bomberg a été lui-même obligé de reconnaître qu'il ne savait pas comment les concilier. La seule réponse que nous puissions faire ici, dit-il, est celle que nous avons déjà faite, savoir que l'usage du Talmud est de contredire aux Massorètes. Nous ne sommes donc pas si bien fondés à admettre qu'il n'y a jamais eu pour un passage plus de deux leçons. J'accorde toutefois volontiers, et c'est même mon sentiment, qu'il ne s'est jamais trouvé plus de deux leçons pour un passage, et cela pour deux raisons. Premièrement, l'origine telle que nous l'avons fait connaître des altérations du texte ne permet pas qu'il y ait plus de deux leçons, puisqu'elles ont le plus souvent pour cause la ressemblance de certaines lettres. Le doute portait donc presque toujours sur le point de savoir laquelle des deux lettres très fréquemment employées, un bet ou un kaf, un yod ou un vav, un dalet ou un rish, etc., il fallait écrire. Et il pouvait souvent arriver que l'une et l'autre donnassent un sens acceptable. En outre, il pouvait y avoir à se demander si une syllabe était longue ou brève, la quantité dépendant de ces lettres que nous avons appelées lettres de pause, et enfin, toutes les notes ne sont pas des leçons douteuses. Beaucoup, nous l'avons dit, sont inspirées par un motif de convenance ou expliquent un terme tombé en désuétude ou vieilli. Deuxièmement, ma deuxième raison est que, suivant ma conviction, les scribes n'ont eu entre les mains qu'un très petit nombre d'originaux, peut-être pas plus de deux ou trois. Dans le traité des scribes, chapitre 6, il n'est fait mention que de deux, que, par fiction, l'on fait remonter au temps d'Esdras, parce que l'on prétendait que les notes étaient de la main d'Esdras. Quoi qu'il en soit, s'il y avait trois exemplaires originaux, nous pouvons concevoir sans peine que deux se soient toujours trouvés d'accord sur un même passage. Il serait en vérité bien extraordinaire que pour un seul et même passage, on trouvât dans trois originaux trois leçons différentes. Par quelle fatalité est-il arrivé maintenant qu'après Esdras, il y ait eu une telle pénurie d'exemplaires originaux? On n'en sera plus surpris si l'on veut seulement lire le chapitre 1 du livre 1er des Maccabées ou le chapitre 5 du livre 12 des Antiquités de Joseph. Et même, il paraît prodigieux qu'après une si longue persécution, on ait pu garder ce petit nombre d'exemplaires. Personne n'en doutera, je crois, qui aura lu cette histoire avec une attention seulement médiocre. Nous voyons donc les causes qui ont fait que nous ne rencontrons nulle part plus de deux leçons. Tant s'en faut par suite que de ce nombre de deux leçons, l'on puisse conclure que la Bible, dans les passages auxquels se rapportent ces notes, ait été à dessein écrite d'une manière fautive pour signifier quelque mystère. Pour le deuxième argument maintenant, à savoir que le texte est parfois si fautif qu'il est impossible d'hésiter à le croire contraire à l'usage de tous les temps, et que par suite il y avait lieu de le corriger purement et simplement, non de mettre une note en marge, il ne me touche pas beaucoup. Je ne suis pas tenu de savoir quel respect religieux a déterminé les copistes à ne pas corriger le texte. Peut-être l'ont-ils fait par probité pour transmettre la Bible à la postérité telle qu'ils l'avaient dans ce petit nombre d'originaux, et ont-ils voulu noter les désaccords des originaux, non comme des leçons douteuses, mais comme des variantes. Moi-même ne les ai appelées leçons douteuses que parce qu'en vérité, la plupart du temps, je ne sais laquelle doit être retenue de préférence. Enfin, outre ces leçons douteuses, les scribes ont noté, en laissant un espace blanc au milieu du paragraphe, plusieurs passages tronqués dont les Massorètes donnent le nombre, 28 passages contenant une lacune. Je ne sais si ce nombre lui aussi enferme un mystère à leurs yeux. Les pharisiens, du moins, observent religieusement la grandeur de l'espace laissé en blanc. Il y en a un exemple. J'en veux donner un dans la Genèse, chapitre 4, verset 8, dont le texte est « Et Caïn dit à son frère Abel, point de suspension, Et il arriva pendant qu'ils étaient au champ que Caïn, etc. Où nous ne pouvons savoir ce que Caïn avait dit à son frère, il y a une lacune. Et s'il s'en trouve 28 de cette sorte, en dehors de celles que nous avons déjà notées, que les scribes ont signalées, plusieurs d'entre les passages notés comme contenant une lacune ne paraîtraient pas tronqués cependant, n'était cet espace laissé en blanc. Mais en voilà assez sur ce sujet.